France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des porcs, des bovins, des ovins, par centaines. Pas vraiment réunis, non, mais sans doute proches les uns des autres. En tout cas, venus à Paris tenir salon. Les bovins, des Normandes, des Limousines, des Charolaises, des Aquitaines. Les ovins, la race Solognotte et les Mérinos. Depuis tout temps, depuis qu'existent les villes, il a fallu les alimenter en viande. Et puis un jour, on a pris plaisir et on a trouvé intérêt à célébrer les meilleures bêtes. En 2005, Emmanuel Laurentin, à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris, consacrait une semaine à l'histoire rurale. En voici le troisième volet, diffusé pour la première fois sur France Culture, le 9 mars 2005.
Troisième volet donc de notre semaine consacrée à l'histoire rurale dans la nouvelle fabrique de l'histoire. Et en l'occurrence, si nous travaillons sur l'histoire rurale, eh bien nous nous sommes rendus la semaine dernière au Salon de l'agriculture et dans le hall 1 de ce Salon de l'agriculture, là où il y avait des éleveurs. Dans un premier temps, l'historien Jean-Marc Morisseau va nous résumer l'évolution de l'élevage en France, en particulier pour les bovins et les ovins et les porcins, entre le Moyen-Âge et la période moderne. Et puis ensuite, Jean-Luc Maillot nous expliquera comment s'est mis en place ce système des concours agricoles qui existe encore jusqu'à nos jours. Jean-Marc Morisseau, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec vous pour la première partie de cette émission consacrée de cette promenade, de ce lieu de mémoire que nous faisons tous les mercredis dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire à l'occasion d'une semaine dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire rurale. Nous sommes dans ce qu'on appelle la plus grande ferme de France, Porte des Versailles à Paris, le Salon international de l'agriculture. Vous êtes historien, vous avez écrit récemment l'histoire et la géographie de l'élevage français du Moyen-Âge à la Révolution aux éditions Fayard, mais également vous dirigez la revue Histoire et Société Rurale, vous êtes professeur d'histoire moderne à Caen et président de l'association d'histoire des sociétés rurales. Alors c'est à ce titre, et en particulier au titre de votre particularité d'historien de l'élevage, que nous sommes ici auprès d'un des endroits de ce salon consacré à l'élevage, et nous allons œuvrer et avancer dans ce salon auprès des différentes races. Nous sommes auprès des porcs basques et c'est avec eux que nous allons commencer notre promenade dans cette histoire de l'élevage en France, parce que tout compte fait, lorsqu'on veut faire cette histoire de l'élevage, on s'aperçoit que le porc a une particularité, à la fois sa rusticité, les différents usages qu'on peut en faire. On fait de cet animal un animal fétiche, un animal symbole qui pourrait presque remplacer le coq dans l'emblème national. C'est cela, Jean-Marc Morisseau ?
Tout à fait. Le porc a joué un rôle très important dans l'histoire française depuis au moins le Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, dans la mesure où il s'accommodait de tout, et en particulier des ressources forestières qui lui permettaient de s'engraisser pendant la glandée. Et tant que ces ressources forestières ont été ouvertes, dans toutes les régions de France, les porcs ont pu être engraissés largement au mois de septembre, octobre, novembre, et revendus après à des bouchers, à des charcutiers. Et le porc était à la fois un élevage de subsistance, mais un élevage commercial que l'on remarque dans toutes les régions françaises. Ceci étant, il arrivait un moment où ces forêts qui étaient librement ouvertes à la dent des porcs se sont fermées, notamment en 1667, au moment de l'ordonnance des eaux et forêts prise par Colbert à l'époque de Louis XIV. Le ministre de Louis XIV souhaite réserver ces forêts à une production de bois d'œuvre et de bois de marine. Et il accélère un certain nombre de mesures qui existaient déjà de limitation de l'entrée des porcs dans les forêts.
Alors pour bien l'expliquer, pour bien comprendre, ces porcs que nous voyons ici, qui d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, n'ont pas la même morphologie que les porcs du Moyen-Âge et même de l'époque moderne, dont vous êtes spécialiste, Jean-Marc Morisseau, ces porcs-là donc étaient des sortes d'animaux divagants, avec des bergers qui les conduisaient, qui les emmenaient dans les forêts, avec une sorte de grande liberté d'action et de pâturage, c'est bien ça?
C'est très caractéristique et peu connu. C'est-à-dire que pour l'engraissement des porcs, jusqu'au XVIIe siècle, l'animal donnait lieu à des pratiques de transhumance. La transhumance n'était pas réservée aux moutons, elle n'était pas réservée aux bovins, parce qu'il y avait aussi des bêtes à cornes qui transhumaient, mais les porcs transhumaient. Ils faisaient 20, 30, 40, 50 km, quelquefois 70 ou 100 km, sous forme de deux journées ou trois journées de route, entre le lieu de rassemblement, qui correspondait à plusieurs villages, et puis le lieu de paisson, qui correspondait à des grandes forêts, forêts royales souvent, qui pouvaient être distantes donc, d'une demi-journée ou d'une journée de marche. Quelques décennies avant, on observe déjà un ralentissement de ces mouvements, qui est lié d'ailleurs à des politiques de protection de la forêt antérieures à Colbert. Mais l'ordonnance des eaux et forêts met vraiment le holà, et à partir de là, il y a un contrôle de la monarchie sur les officiers qui gèrent l'exploitation des bois et des interdictions de plus en plus strictes pour la transhumance des porcs et pour l'arrivée des porcs, des communautés rurales dans les forêts. Alors à ce moment-là, l'élevage du porc se sédentarise.
Alors il ne faudrait pas oublier néanmoins l'arrivée au XVIIIe siècle de deux matériaux de base qui vont permettre l'amélioration de la race également et puis d'avoir des porcs qui sont différents de ceux qui précèdent, c'est-à-dire le maïs d'un côté, la pomme de terre qui se développe et qui font que d'une certaine façon le porc que l'on connaît aujourd'hui est issu de ce porc de cette fin de milieu, fin 18e siècle.
Oui, disons il est issu avec beaucoup de croisements et d'améliorations génétiques postérieures, mais c'est un fait que le développement du maïs au 17e siècle, de la pomme de terre au cours du 18e siècle a joué un rôle important dans l'engraissement des porcs. Et certaines régions se sont d'ailleurs spécialisées vers cet engraissement. C'est le cas du Périgord en particulier, qui au XVIIIe siècle engraissent des porcs qui partent à Bayonne et qui finalement sont un peu l'ancêtre de ce cochon de Bayonne qu'on a ici.
On va se rapprocher.
Et qui était expédié notamment très largement dans les îles, comme on disait, c'est-à-dire à Saint-Domingue, et qui était très exporté. Il y a donc quelques régions qui spéculent sur le porc, et c'est le cas notamment du sud-ouest.
Alors on voit ici, nous sommes sous dans le stand des porcs basques, et si on se penche par-dessus les bas-flancs en métal donc, qui enserrent chacun de ces porcs, qui dort d'ailleurs tranquillement de son bon sommeil, on voit des porcs qui ressemblent ou qui ne ressemblent pas à ce qu'on peut voir sur les planches et les gravures du XVIIIe siècle,
oui,
que vous connaissez si bien, Jean-Marc
Enfin, des gravures, on n'en a pas beaucoup. Hein. Buffon nous donne dans son Histoire naturelle des représentations morphologiques des animaux correspondant à des animaux de belle stature et de belle qualité. Si on compare ces représentations à ce que nous voyons aujourd'hui, la parenté est très forte.
Oui, mais si avec on compare à la réalité de l'époque, c'est-à-dire à ce que vous pouvez retrouver dans les archives en particulier, les poids, les longueurs, les tailles de ces animaux, ça n'est pas exactement la
non.
même chose.
Il est sûr que les images de Buffon correspondent à des modèles particulièrement exceptionnels en ce qui concerne la stature et la morphologie.
On va s'écarter de ce stand des porcs pour aller vers les bovins qui sont de l'autre côté du ring de ce hall 1 de la porte de Versailles. Donc le ring étant cette invention des années 1910-1920 qui permet de mettre en spectacle, pourrait-on dire, les plus beaux animaux. On y reviendra tout à l'heure avec Jean-Luc Maillot dans la deuxième partie de notre promenade ici même. Disons, les animaux que nous voyons ici n'ont pas grand-chose à voir au point de vue ni des tailles, ni du format, ni du poids avec les animaux qu'on pouvait connaître, disons, du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, c'est cela, Jean-Marc Morisseau ?
Pas exactement. Pour certains animaux, on va le voir pour les bovins, pour notamment les races à viande, le 17e siècle et le 18e siècle semblent déjà formater des animaux qui correspondent aux animaux actuels. Simplement, on va se rendre compte que le poids des animaux a considérablement évolué. On pourrait multiplier par 3, voire par 4 ce poids, quelquefois davantage, pour avoir le différentiel entre le 17e, 18e siècle et puis l'époque actuelle. Mais avec les bovins, on ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de l'élevage. Les porcs nous permettaient de voir, depuis le Moyen-Âge, une certaine continuité brisée au 17e siècle par la politique de l'État. En revanche, avec les bovins, c'est plutôt les activités commerciales et le développement des villes qui vont être le moteur des changements, de changements qui interviennent plus tardivement, essentiellement à partir de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle.
Donc quelques dizaines de mètres encore et nous allons nous retrouver donc du côté des bovins de concours pourrait-on dire. justement ici, nous voici arrivés donc sur le stand des vaches normandes, des vaches extrêmement particulières. Vous vouliez commencer pour parler des bovins par ce stand de nez normande et un peu plus loin, il y a le stand des limousines que nous allons évoquer. Alors les normandes, bien connues pour leurs robes tachetées, marron, blanche et quelquefois avec quelques taches de marron foncé presque noir. Ça doit être une année en S cette année puisque nous avons Satine, Sonnette, Suresne, Savoie, Sotie, Soluble, Scarlett et d'autres. Donc c'est une année en S, j'ose l'imaginer, celle de 2001 puisqu'elles sont toutes nées en 2001. Alors pourquoi vouloir évoquer d'abord, lorsqu'on parle des bovins, évoquer cette race normande, Jean-Marc Morisseau?
Parce qu'elle est caractéristique des races laitières que l'on voit aujourd'hui et que l'on peut comparer à celles qu'on voyait déjà au XVIIIe siècle. On parlait tout à l'heure de Buffon. Et il représente notamment un taureau normand vers 1750 qui a exactement la même conformation, le même pelage bringé, la même musculature, hein, les mêmes types de cornes également que ce qu'on peut trouver sur les modèles contemporains. Et à cela, il y a une bonne raison, c'est que la race normande a été l'une des premières à être sélectionnée et à être améliorée, notamment par des apports hollandais, ancêtres en quelque sorte des apports Frison et Primolstein du XXe siècle.
Oui, alors dès 1750, qui est effectivement la vache la plus répandue parce que c'est de la meilleure laitière avec une grosse laitière qui donne tous les ans lieu à une sorte de spectacle ici même au Salon de l'Agriculture parce qu'il y a des ventes de Primolstein extrêmement importantes, presque comme les ventes de Yearling à Deauville d'ailleurs, pour que les éleveurs se concurrencent et discutent entre eux de la qualité de ces vaches. Donc c'est pour cela que vous vouliez être face aux Normandes et puis aussi parce que la Normandie, grâce à ses pâturages, est un lieu particulier dans l'histoire de l'élevage français, à savoir qu'il y a deux grandes filières, pourrait-on dire, qui nourrissent Paris. Il y a la Normandie et le Limousin. C'est cela, Jean-Marc Morisseau?
Oui, alors il y a cela. Et en Normandie, il y a à la fois la filière laitière et en même temps la filière viande. Car il faut bien voir que là, ces vaches sont des vaches laitières qui ont permis la production de beurre autour d'Isigny, notamment à partir du XVIIe siècle, et la production de fromage.
Isigny qui produisait quasiment la totalité du beurre qui pouvait être consommé à Paris à la fin du XVIIIe.
Pas la totalité, mais une grande partie.
Une grande partie.
Et puis la production de fromage, on pense au camembert. Le petit camembert notamment a été mis en place avant la légende de Marie Harel. On le voit 1750-1760, mais dans un commerce local. Par contre, c'était des fromages de type pavé d'auge qui existaient juste antérieurement et qui était commercialisé à Paris. Mais en dehors de cette filière laitière, qui est importante, il y a la filière viande. Et là, la Normandie joue un autre rôle, qui est celui d'engraisser sur des prés qui se développent par le couchage en herbe, à partir de 1650 en particulier, des bêtes qui viennent du Maine, de l'Anjou, du Poitou, qui ont déjà travaillé.
C'est ce qu'on appelle le chemin des bœufs, d'une certaine façon. Il y a deux chemins des bœufs. C'est-à-dire, si on remonte le plus loin possible de Paris, on a une sorte de chemin qui monte du Poitou vers l'Anjou, vers le Maine, et qui se termine en Normandie. Là, on engraisse les bêtes en question. Ensuite, on les emmène à Poissy, c'est cela, qui devient le grand centre de vente près de Paris, donc de ces bêtes à viande, en l'occurrence.
Tout à fait.
Et puis, on les met même dans des prairies d'embouchage tout près de Paris, parce que le transport à pied les a fatigués, c'est cela?
Voilà. Il faut les rafraîchir, qu'elles soient davantage commercialisables, bien entendu. Et donc, on les rafraîchit pendant quelques jours avant de les abattre. Et puis, il y a un autre chemin au bœuf. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un autre important qui lui part du Limousin et qui dirige, j'allais dire, les concurrentes des Normandes vers Paris, vers un autre marché qui est le marché de Sceaux et qui permet de ravitailler Paris, notamment au moment où la Normande, en quelque sorte, la vache normande, ne peut pas être engraissée. Car il faut bien voir qu'en Normandie, le couchage en herbe permet d'engraisser le bétail à l'air libre et de faire arriver sur la capitale, à la fin du printemps et pendant l'été et l'automne, une quantité de viande sur pied importante.
Et le relais est pris par les Limousins.
Voilà. Alors qu'en Limousin, c'est à l'étable, c'est le bétail de pouture, comme on dit, qui arrive, lui, plus tardivement, notamment à Noël, en janvier, en février, avant l'interruption du carême.
Alors on peut dire néanmoins qu'il y a une grande disparité entre tous ces bétails, puisque lorsque vous faites des tableaux chronologiques, mais aussi synthétiques, qui permettent de voir à peu près à la même époque, Jean-Marc Morisseau, le type de bétail qui arrive sur Paris, ça va du simple au double, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le bœuf solognon, petit, mal fichu, qui malheureusement n'a à se nourrir que de brandes et de très mauvaises pâtures. Et puis de l'autre côté, on a la Normandie. Alors là, c'est les terres grasses, on a des bœufs ou des animaux qui font à peu près le double l'un de l'autre, c'est ça ?
Tout à fait. Le format moyen, enfin le poids moyen des animaux va du simple au double entre les grandes régions spéculatives et les régions de polyvalence du bétail, hein, tout à fait.
Alors, si on veut parler d'une de ces régions spéculatives et aussi de la création presque des ancêtres des races locales, pourrait-on dire, de la sélection, on est juste à côté, il y a les charolais, donc cette très belle robe blonde qu'on connaît aux charolais. Elles sont, les animaux charolais qui sont ici sont particulièrement pomponnés, il faut le dire, pour le concours agricole. Certains d'ailleurs d'entre eux ont déjà un prix, deuxième, troisième prix pour Sésame, somptueux, un troisième prix également, et trois mâts au Tokyo. Donc on voit des bêtes qui sont d'une race. On commence à sélectionner à partir de quelle époque est-ce qu'on sélectionne? Bien avant les concours généraux agricoles du 19e siècle, dont nous parlera Jean-Luc Maillot, c'est ça?
Oui, bien avant. Hein. Les concours généraux agricoles ne font finalement qu'assurer le relais de l'action des sociétés d'agriculture du 18e siècle et de l'administration agricole en général pour promouvoir un bétail marchand sous forme de croisement, notamment avec les Anglais ou avec le bétail espagnol pour d'autres races. Antérieurement, c'est le commerce. Et notamment, ce sont les besoins des villes qui incitent des producteurs à se spécialiser. Et c'est le cas du charolais. Le charolais, à partir de 1650-1660, sous l'impulsion en particulier de la demande lyonnaise, là c'est Lyon qui est en première ligne, développe des prairies naturelles au détriment des labours. Il y a un couchage en herbe comparable à celui de la Normandie où sont engraissés des bœufs qui viennent du Bourbonnais, qui viennent de l'Auvergne pendant 6 mois ou 8 mois, concentrés par des marchands éleveurs, des marchands herbagers comparables à ceux de la Normandie et qui vont ensuite être vendus, bien engraissés, sur Lyon. Alors tout ça se développe au XVIIIe siècle, à telle enseigne que le sud de la Bourgogne, la région qu'on appelle le Brionnais, et maintenant le Charolais, alimente non seulement Lyon, mais également Paris. Et en même temps, l'usage du sol se transforme, c'est-à-dire que la céréaliculture se rétracte au profit des secteurs en herbe. On a une conversion paysagère qui marque le paysage de certaines régions qui approvisionne les villes, notamment en viande.
Alors, nous voici arrivés sur le stand des Blondes d'Aquitaine. Une simple remarque, peut-être par rapport à votre livre et votre travail, Jean-Marc Morisseau, sur l'histoire et la géographie de l'élevage français, paru chez Fayard. Vous insistez beaucoup sur le manque d'hygiène au XVIIe, XVIIIe, qui choque beaucoup. D'ailleurs, les premiers observateurs qui se rendent dans les fermes, on a des litières qui ne sont pas entretenues, parce que simplement, ici, on voit des tonnes de paille sous ces Blondes d'Aquitaine. Mais au XVIIe, XVIIIe siècle, évidemment, cette paille sert d'abord à faire les matelas pour les humains et on les installe, ces animaux, sur des fougères, des endroits comme cela, qui s'entassent et on ne sort jamais le lisier ni le fumier. Donc au bout d'un certain temps, au bout de toute une saison, on a presque un mètre de fumier sous les animaux qui sont sales et dont on pense d'ailleurs à l'époque que le fait qu'ils soient sales les protège de la maladie, c'est cela ?
Tout à fait, tout à fait. Mais il faut voir qu'on est dans une civilisation de la saleté. Tout récemment, mon collègue Leguet à Rouen vient de sortir une histoire de la pollution urbaine au Moyen-Âge où les gens des villes n'étaient pas mieux traités que les animaux du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il faut relativiser. Et puis de toute façon, le bétail, il était alimenté et il était entretenu avec ce que l'on trouvait, avec ce que l'on avait. Parce qu'en dehors du bétail commercialisé, il y avait quand même un bétail de subsistance, les deux étant souvent associés d'ailleurs, qui devait faire bon an, mal an avec les ressources locales.
Alors voilà, c'est formidable taureau de blonde d'Aquitaine. Là, alors là, on a Toutou devant nous, on a Rebelle. Donc, qui, Toutou est né en 2002, donc évidemment, on est passé à la seconde lettre. Tout à l'heure, on était au S, maintenant, on est au T. Je ne sais combien il pèse, mais ce sont des monstres, en l'occurrence, par rapport à ce que vous avez pu voir sur les gravures du XVIIIe siècle, Jean-Marc Morisseau.
Mais il n'y a pas que les gravures. On a la chance, pour le XVIIIe siècle, d'avoir des estimations en poids qui couvrent la plupart des régions de France. D'une part, à partir des mémoires des intendants à l'époque de Louis XIV, et d'autre part, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'encyclopédie méthodique. Et ces poids montrent que, disons, les taureaux les plus volumineux de la fin du XVIIIe siècle pouvaient atteindre 1400 livres, traduisaient 750 kilos à peu près. Donc les plus beaux spécimens étaient deux fois moindres en volume et en poids de carcasse que ceux que l'on voit aujourd'hui. Et pourtant, la blonde d'Aquitaine, puisqu'on est devant elle, faisait partie des races gasconnes qui comptaient parmi les plus volumineuses, hein, les plus belles espèces de l'Ancien Régime.
Alors nous nous sommes attardés chez les bovins. Peut-être devrions-nous maintenant nous rendre chez les ovins, puisque vous vouliez nous parler de ces moutons qui aussi ont un rôle essentiel dans l'histoire de l'élevage français de l'époque moderne. Jean-Marc Morisseau, nous voici donc arrivés à un autre bout de ce hall 1 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris pour le Salon de l'Agriculture, du côté des ovins et en particulier de cette race Solognotte, une race rustique en conservation, comme le dit d'ailleurs le panneau qui est affiché au-dessus du box de ces moutons dont la tête est marron. Ils ne possèdent pas de cornes, ils ont une laine relativement grisâtre et leur berceau de race est la Sologne, dit le petit panneau. C'est une race ancienne qui a peu été touchée par les infusions de sang étranger.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croisement soit avec les moutons mérinos espagnols, soit avec les races anglaises au XIXe siècle. Et on retrouve les caractéristiques morphologiques du bétail rustique qui se trouvait dans beaucoup de régions françaises d'ailleurs sous l'Ancien Régime, mais qui se trouvait déjà en Sologne en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit encore aujourd'hui du bétail le plus chétif, hein, en poids. Simplement, il a 4 à 5 fois plus de poids que celui qu'on rencontrait évidemment au XVIIIe siècle. Mais ce caractère rustique du bétail, il est doublement intéressant. D'une part parce qu'en dehors de la Sologne, il est le propre de beaucoup de régions peu spécialisées du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Et d'autre part parce qu'il est l'indice d'un changement agricole qui ne passe pas nécessairement par le progrès. On a souvent tendance à voir les choses de manière linéaire et téléologique en essayant de trouver dans le passé les racines de ce qui existe aujourd'hui, comme si du passé à aujourd'hui, il y avait une ligne droite ascendante. Or, pour la race Solognotte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle semble ne s'être développée qu'au XVIIe siècle, alors que la Sologne avait été épuisée par la céréaliculture et que les brandes et les bruyères se développaient. Ça a été un remède économique pour trouver de l'argent, car c'est le bétail qui donnait de l'argent et qui permettait de payer l'impôt au roi. Ça a donc été un remède économique que de développer le mouton en Sologne à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, alors qu'il n'était que très secondaire jusque-là. Alors,
il faudrait d'ailleurs dire, et ce qu'on n'a pas dit avec vous depuis le début de cette émission, Jean-Marc Morisseau, que la richesse se mesurait au bétail pendant toute la période moderne, c'est-à-dire que on était un riche paysan, un riche agriculteur, si on avait plus de têtes de bétail, et d'ailleurs un bétail qui pouvait être d'ailleurs varié. La plupart n'étaient pas spécialisés comme aujourd'hui, on n'élevait pas spécifiquement soit des vaches ou des taureaux, soit des moutons, soit des chèvres, mais on pouvait avoir une sorte de polyculture bien comprise où on avait un peu de tout, c'est cela ?
Oui, le bétail formait une sorte d'étalon économique et même presque monétaire de l'économie ancienne, mais pas uniquement de l'Ancien Régime. Depuis le XIIe siècle au moins, jusqu'au XIXe siècle, ça a été le cas évidemment chez les agriculteurs, puisque selon le nombre de têtes possédées, selon la nature des animaux, avoir des bœufs, ce n'était pas la même chose qu'avoir de mauvaises vaches. Avoir des bœufs, ce n'était pas la même chose que d'avoir des moutons ou des chèvres. On pouvait étalonner.
C'était la vache du pauvre, c'est ça ?
C'était l'animal du pauvre, même si on a vu qu'on pouvait spéculer sur de gros troupeaux de chèvres également quand on était un grand propriétaire. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a des animaux du pauvre. C'est le cas de la vache laitière, c'est le cas des moutons, souvent, et c'est le cas évidemment de la chèvre. Mais il y a un autre élément important qui montre que le bétail étalonnait la richesse, c'est que ce bétail constituait le lieu de placement des économies monétaires de tout un chacun, en dehors de l'agriculture. Aujourd'hui, on pense au livret A, par exemple, au livret de caisse d'épargne, pour les placements de père de famille, pour un an, deux ans ou trois ans. Sous l'Ancien Régime, ce n'était pas le cas. On achetait du bétail et on le louait aux exploitants agricoles.
C'est ce qu'on appelait le bail à cheptel, c'est ça ?
Exactement. Et il prenait des noms très divers d'une région à l'autre. Et il était universel. Et il couvrait les moutons, comme on le voit maintenant, mais il valait également pour les bêtes à cornes, comme on disait, donc pour les animaux de trait et les animaux d'élevage, et également pour le petit bétail.
Alors, puisque vous évoquez les moutons et que nous avons commencé par une race, en l'occurrence rustique, comme on dit, nous allons nous rendre à la bergerie nationale de Rambouillet, qui s'appelait auparavant, évidemment, avant la Révolution française, qui est votre époque, la bergerie royale de Rambouillet, pour évoquer l'arrivée au 18e, 19e siècle d'une race nouvelle qui va complètement transformer l'élevage ovin en France, à savoir le mérinos. Alors Jean-Marc Morisseau, le mérinos de Rambouillet. Alors pourquoi le mérinos de Rambouillet dans cette promenade à travers le salon de l'agriculture et pourquoi a-t-il cette importance ? Peut-être pour montrer déjà que la mondialisation, l'européanisation des marchés ne date pas du 19e et du 20e siècle, que déjà au 18e on s'intéressait aux races entre guillemets étrangères, extranationales et qu'on a commencé à spéculer dessus. C'est cela Jean-Marc Morisseau ?
C'est tout à fait cela, et même il faut élargir le propos. On s'est aperçu, à partir de la fin du XVIIe siècle, qu'on dépendait beaucoup de l'étranger en matière de laine, dans l'industrie textile. Et après Colbert, un certain nombre de ministres du XVIIIe siècle ont favorisé le développement de races à laine, et ce développement passait par l'introduction de mérinos.
Voilà, une introduction de contrebande, puisqu'il y avait déjà du protectionnisme dans l'air. Méline n'était pas encore née, mais il y avait déjà cette dose de protectionnisme, puisque les Britanniques ne voulaient pas qu'on récupère des moutons de chez eux, et les Espagnols, donc la race mérinos en particulier, ne voulaient pas que les mérinos sortent de chez eux non plus. Donc il a fallu passer par des sortes d'accords d'État pour pouvoir sortir de la contrebande et faire en sorte que ce mérinos rentre sur le territoire national de façon légale, c'est cela ?
Tout à fait. Avec l'Angleterre, ça n'a pas été possible. On était en guerre et ce n'est que par la voie de la contrebande et sous forme d'anecdotes souvent savoureuses d'ailleurs que des moutons ont été transportés d'Angleterre en France. Par contre, du côté espagnol, le fait que sur le trône d'Espagne régnait un cousin de Louis XVI a facilité les choses et en 1786, après toute une grande préparation diplomatique, un accord a été fait au terme duquel le roi d'Espagne a autorisé l'exportation d'un premier troupeau de plusieurs centaines de béliers et de brebis mérinos vers la France. Auparavant, il y avait eu aussi de la contrebande et les régions frontières connaissaient une petite mérinisation, mais elle était vraiment insuffisante pour laisser des traces. À partir de 1786, il y a une politique royale cohérente qui est marquée par la création de la bergerie royale de Rambouillet, aujourd'hui bergerie nationale de Rambouillet, qui se fait la pépinière en quelque sorte de la mérinisation auprès de troupeaux aristocratiques d'abord, chez la grande noblesse, férue d'agronomie, et chez quelques grands fermiers également.
Alors, ces mérinos qui ont cette particularité d'avoir cette laine, on le voit sur ces mérinos de Rambouillet, justement, extrêmement dense, très, très profonde, et puis ces magnifiques cornes qui les différencient, ces cornes en torsade, donc qui les différencient de beaucoup d'autres races nationales, en tous
oui,
les cas.
Mais c'est surtout la qualité de la laine hein, qui joue ici. Et ce n'est pas la première importation de 1786 qui est fondamentale, même si vraiment elle a lancé, elle a démarré le processus. C'est la deuxième importation de 1795, ou plutôt de 1799-1800, qui elle aussi est liée à un traité politique. C'est le traité de Bâle, en 1795, qui marque la paix entre l'Espagne et la France, qui permet une deuxième importation de mérinos, grâce encore une fois à l'action des milieux agronomiques qui entouraient les ministères à cette époque-là. Le troupeau arrive en France et c'est lui qui va contribuer à la création d'autres institutions de mérinisation, comme à Arles en particulier, et qui va développer la mérinisation auprès des grands exploitants, des grands fermiers dans la France entière.
Alors, on va terminer sur ce point avec vous, Jean-Marc Morisseau. Vous vouliez nous montrer, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, que l'élevage est la meilleure manière, une des meilleures manières pour observer les mutations du rural, mais dans toutes les acceptions du terme, puisqu'on a évoqué avec vous l'ethnozoologie en parlant des races, on a évoqué également la question de l'espace rural et de la façon dont il était géré, on a évoqué la question du politique, et on n'a pas eu le temps, tous les produits qui étaient issus de cet élevage, mais on voit bien effectivement que cet élevage à la période moderne, donc entre le Moyen-Âge, la Révolution française et le 19e siècle, est quelque chose de fondamental dans le paysage, fondamental pour la compréhension même de la société française. C'est ce que vous voulez dire, Jean-Marc Morisseau ?
Oui, pour la société, pour l'économie, pour la géographie. Hein. Il faut bien voir que, contrairement à aujourd'hui, l'élevage n'était pas un secteur à part de l'agriculture, mais c'était un secteur qui animait l'agriculture, mais également le commerce, les échanges et aussi l'industrie. On l'a vu avec la laine, on pourrait parler du cuir, on pourrait parler de la corne, on aurait pu parler également du trait animal, puisque l'élevage était le moteur des charrues, des arrières, mais également des transports publics, que ce soit les carrosses ou les charrettes et les chariots. Et donc, il jouait vraiment un rôle fondamental dans l'économie générale de la France. Et on a vu aussi que, socialement, il permettait des formes d'investissement, des formes de placement des gens des villes à la campagne, et des formes également de spéculation des marchands et des négociants qui ont fait émerger un certain nombre de races améliorées qui sont les prototypes du progrès agricole du 19e siècle qui annonce ce que l'on voit aujourd'hui.
Merci Jean-Marc Morisseau. Je rappelle que votre ouvrage fondamental, il faut bien le dire, parce qu'il fait la synthèse de nombreux travaux et vous avez puisé dans beaucoup de travaux récents, en particulier sur la question de l'élevage, s'intitule « Histoire et géographie de l'élevage français du Moyen-Âge à la Révolution » qu'il est paru chez Fayard. Merci encore.
France Inter, 1961, concours général agricole lors du Salon d'agriculture.
Veuillez écouter Paysans de France, une émission présentée par Raymond Cherrier.
Ici la porte de Versailles où se termine la grande semaine de l'agriculture de Paris. Le Salon international de la machine agricole fermera ses portes ce soir et demain le concours agricole. Eh bien ce matin nous allons vous en donner encore quelques illustrations. Je vais appeler Roger Lamy qui nous attend quelque part dans les halls pour nous parler des résultats des animaux. Allô, Roger Lamy, à vous.
Eh bien oui, Raymond Chéri, nous sommes venus dans ce hall des animaux du parc des expositions de la Porte de Versailles rendre visite à nos nouveaux champions, car depuis cette semaine, l'élevage français comporte d'une part de nouveaux champions et d'autre part cette magnifique présentation aux portes de Paris de tous les sujets bovins, ovins, caprins et chevaux, et qui font le fleuron de l'agriculture et de l'élevage français. Monsieur Barra, qui est commissaire aux animaux, connaît ces sujets, lui, sur le bout du doigt, et il connaît naturellement toutes les nouvelles vedettes qu'il va nous présenter.
Nous voilà presque à la veille de fermer le concours général. et les éleveurs, sans doute un peu fatigués par le travail exigé pour l'entretien d'un nombreux bétail, sont quand même réconfortés par les récompenses qu'ils ont remportées au cours de ces journées.
Jean-Luc Maillot, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour cette seconde partie de cette émission au Salon de l'Agriculture, donc Porte de Versailles à Paris, pour une semaine consacrée à l'histoire rurale dans la Nouvelle Fabrique de l'Histoire, nous sommes avec vous pour évoquer en particulier toute cette histoire des 19e, 20e et même 21e siècle de la sélection et de l'amélioration des races. Nous avons évoqué avec Jean-Marc Morisseau la période moderne, les débuts d'ailleurs de cette sélection et de cette amélioration. Et nous sommes avec vous pour évoquer plutôt le moment où tout cela se cristallise dans des concours et permet de mettre en œuvre une politique nationale qui avait déjà existé un peu. On l'a vu pour le mouton mérinos, par exemple, et les bergeries royales, puis ensuite les bergeries nationales. C'est cela, Jean-Luc Maillot ?
Absolument. Alors, par rapport au travail de Jean-Marc Morisseau qui concerne la période moderne, ce qui change, c'est que progressivement, d'abord, la société change fortement. C'est-à-dire que le 19e siècle est le siècle et de l'industrialisation et d'une industrialisation qui s'accompagne de l'urbanisation. Donc d'une main-d'œuvre et d'une population urbaine de plus en plus nombreuse. Hein, je rappelle qu'au début du 19e siècle, on est encore une population dite rurale à 80% et que c'est dans l'entre-deux-guerres qu'on est à 50-50. Et l'autre façon de voir les choses, c'est de dire que au début du 19e siècle, on est dans ce pays à 7,5 millions d'exploitations. Le même pays aujourd'hui, c'est 600 000 exploitations. Alors, cela, si on regarde du côté du concours et du côté quand même de ce qui s'est passé dans le monde rural, c'est que ça a été une mise aux normes professionnelles et productives extrêmement lente dans un premier temps entre le 19e siècle et nos jours.
Alors, lente, mais néanmoins, on voit bien les frémissements aux alentours du milieu du 19e siècle. On évoquait avec Jean-Marc Morisseau, dans la première partie de cette émission, les foires de Poissy et de Sceaux, qui étaient ces foires qui permettaient de nourrir Paris en bovins. La foire de Poissy devient, et ça n'est pas un hasard, j'imagine, aux alentours de 1840-1850, le premier concours général parrainé par la nation et par l'État, donc en l'occurrence, voilà, pour pouvoir commencer à sélectionner les bovins, c'est cela ?
C'est très exactement cela, c'est-à-dire qu'il y a en France donc un système général qui est quand même celui dominant de la petite exploitation post-révolutionnaire, mais qui reste quand même plus ou moins dominé, en tout cas dans le discours, par les notables traditionnels, généralement issus de la noblesse, et dont une bonne part d'entre eux, pour la noblesse, a passé un certain nombre d'années en exil, notamment en Grande-Bretagne. Et c'est là qu'un certain nombre d'entre eux ont vu le modèle anglais à l'œuvre depuis le milieu du XVIIIe siècle. Je prends le seul exemple des bovins, c'est les frères Collins qui inventent une bête qu'on va appeler le Durham, donc des bovins, les Durham dans le comté de Durham, qui sont capables d'atteindre la tonne, hein, 1000 kilos de poids vif en une quarantaine de mois. Ces nobles de retour en France, dans la France impériale, dans la France post-révolutionnaire, s'organisent, c'est-à-dire qu'à la fois pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement économique du pays, et notamment qu'ils ont aussi à légitimer leur présence devant les paysans, devant le secteur de l'agriculture. Et ils vont tenter d'imposer le Durham. Alors comment imposer le Durham ? Ben, en faisant la preuve que c'est la meilleure bête. Et ils s'organisent vraiment, enfin, le terme est anachronique, mais c'est un groupe de pression, c'est quasiment du lobbying auprès du ministère à ce moment-là, au début des années 40, et cela débouche très précisément au moment de février 1844 avec la création du premier grand concours national sur le marché aux bestiaux de Poissy. Ce marché étant destiné, vous l'avez dit, à approvisionner Paris en viande et en viande bovine, mais ce marché n'étant pas très loin de Paris. Et pourquoi à ce moment-là de février ? Ben, tout simplement parce qu'il est réintroduit aussi une tradition festive qui est le carnaval et la tradition du bœuf gras. Et ce bœuf gras, ben, tout simplement, les animaux vainqueurs du concours de Poissy de 44, ce sont bien sûr les Durham qui devancent largement les Normands, les Charolais, les Nivernais. Et ce sont les Durham qui vont être vainqueurs du concours de Poissy, qui sont promenés dans les rues de Paris. édification de toute la population parisienne et dont les plaques de concours et dont les morceaux d'animaux finissent dans les étals des bouchers parisiens.
Alors justement, parlons de ces plaques de concours. Nous sommes un peu à l'écart par rapport à l'endroit où nous étions tout à l'heure au milieu d'émission avec Jean-Marc Morisseau. Nous étions du côté des Normandes. Là, nous sommes vers des races moins connues, la pie rouge des plaines, la bretonne pie noire, la blanc.
La rouge des prés, qui est une invention récente.
La rouge des prés. Et là, juste derrière nous, il y a évidemment cette très connue, les Aubrac. Et là, à la rouge des prés, on voit bien qu'il y a, de ce stand de la rouge des prés, qu'il y a ces fameuses plaques que l'on connaît pour les avoir vues chez tous les bouchers ou chez les agriculteurs.
Absolument.
Eux-mêmes d'ailleurs. Ces plaques, c'est quoi? C'est une invention du 19e siècle?
De façon confidentielle, bon, c'est dommage pour la radio, ce n'est plus confidentiel, mais moi je collectionne les plaques concernant les bovins. J'en ai pas mal. Concernant le 20e siècle, j'ai beaucoup de mal à en trouver du 19e siècle. Alors, pour diverses raisons, c'est que d'une part, celles qui existent encore sont conservées par les familles à titre patrimonial, que beaucoup ont été détruites parce que lorsqu'on gagnait des concours, on disposait de plaques et que ces plaques, on les installait devant l'étable ou devant la vacherie sur la façade pour montrer qu'on était un des meilleurs. Donc c'est cette façon des étables à concours qui se représentent dans le paysage, et c'est pourquoi elles sont toujours de couleur vive encore aujourd'hui, du jaune, du rouge, du vert.
Elles sont rouges avec des écritures en jaune. Hein, ouais.
Et l'autre aspect de leur disparition et de la rareté, c'est que d'une part, au tout début, dans la deuxième moitié du 19e siècle, elles sont en tôle peinte. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est de la fonte d'aluminium, mais avant, c'est de la véritable fonte de fer. Donc elles pèsent leur poids, elles ont été ensuite recyclées, manifestement, notamment pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, on voit bien qu'il y a plus qu'un frémissement entre ces années 1840-1850 que vous évoquiez à l'instant, l'arrivée de ce qu'on a appelé le parti anglais, donc ces aristocrates qui défendaient cette race Durham qu'ils voulaient implanter durablement en France, l'attention portée par Napoléon à tout cela, Napoléon III en l'occurrence, lui qui avait vécu en exil en Angleterre, portait à tout cela, et puis petit à petit, sous l'Empire et jusqu'à l'arrivée de la République, un profond changement qui va faire effectivement que toute cette deuxième moitié du 19e siècle, Jean-Luc Maillot, est un moment très important dans cette sélection, cette invention ou cette réinvention des races.
C'est un moment fondamental dans l'histoire générale. Les historiens s'interrogent beaucoup après Alain Plessis pour savoir si le Second Empire a été le véritable take-off économique de la France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Durham, voulu par une partie de la noblesse, par une partie des notables d'anciens types, ne marche pas, ça ne prend pas chez les agriculteurs français. Pourquoi ? Parce que le Durham, c'est une très belle bête, énorme, qui prend du poids très vite, donc qui est donc économiquement rentable. Simplement, le Durham donne très peu de lait, est absolument incapable de travailler. Or, le paysan français, c'est globalement un petit paysan. Quand il possède une bête, il lui demande du travail, il lui demande du lait.
Et c'est uniquement la mono-activité qui compte.
Alors, les nobles, un certain nombre d'entre eux ont beau se répandre dans le journal d'agriculture pratique pour dire qu'eux se battent pour qu'il y ait le pot-au-feu pour tous. C'est plus la polopo, c'est le pot-au-feu pour tous. Mais les paysans n'en ont pas besoin. Enfin, n'ont pas de pot-au-feu, mais un animal comme ça, pour eux, n'est pas assez rentable. Donc, ça ne prend pas. Et ce qui est en train de se jouer sur le Second Empire, c'est d'une part une forme d'intelligence, sans doute du régime, qui est quand même à l'écoute. On a quand même parlé d'empereur des paysans. Donc qui est à l'écoute quand même de ces paysanneries qui finalement ont laissé venir le coup d'État et n'ont rien fait pour l'en empêcher. Mais c'est surtout face à ça, donc une sorte de regard local. Un regard local qui est d'autant plus accentué que le mouvement contre le Durham, on le rencontre non pas à ce qui deviendra le concours général, le concours de Poissy qui a été déplacé à la Villette, à Paris, mais on le découvre surtout localement dans les comices agricoles, où en fait on se rend compte que personne ne veut de cette Rolls, entre guillemets, qu'est le Durham, mais on cherche de la race locale qu'on va améliorer.
Et alors, si on glisse un peu dans le 19e siècle, on arrive évidemment au moment de la Troisième République, voilà. Et avec un changement profond qui là aussi, est au cœur de cette évolution.
Merci de cette question, parce que ça signifie bien qu'aucune activité, pas plus l'élevage qu'une autre activité, n'est isolée du mouvement de l'histoire générale. Or, l'enjeu, quel est-elle ? C'est que les républicains qui se retrouvent au pouvoir en 70, qui sont vraiment installés 1876-1877, de quoi se souviennent-ils ? Quelle est leur culture ? C'est que les paysans de France, qui sont encore majoritaires, n'ont pas été républicains en 1851. Il faut donc chausser la République de sabots. C'est le discours de Gambetta qui demande en 81 de créer un ministère de l'agriculture qui soit le ministère de l'intérieur des paysans.
Oui, oui.
Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut simplement avoir des militants. C'est qui les militants républicains dans les années 70-80 ? C'est le vétérinaire, c'est l'instituteur, c'est le médecin, qui eux connaissent une réalité du rural, une réalité de l'agriculture qui n'est pas celle nécessairement des notables traditionnels. Alors, qu'est-ce qui sort des campagnes à ce moment-là ? C'est des races locales améliorées qui peuvent être productives, qui sont adaptées au climat, qui sont adaptées au sol et qui sont capables de faire de la viande, de faire du lait, de faire du travail. C'est tout cela qui est mis et c'est comme ça qu'on va réinventer, remodifier, améliorer les races locales.
Oui, et qu'on va tout de même réinventer du terroir parce que c'est aussi cela qui va avec. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit « je suis d'ici et pas d'ailleurs, j'ai ma race et ça n'est pas la race du voisin ». On se distingue des régions, on crée des sortes de petites régions,
mais, c'est ça. Vous le savez bien, puisque la Fabrique de l'Histoire a déjà invité Chanet et d'autres, c'est-à-dire que les petites patries, on en parle bien sûr au plan intellectuel face aux instituteurs nationalisants et le patois face aux nationalisants, mais il y a aussi les races locales face à une idée générale, peut-être nationale, de développement agricole. C'est les mêmes choses qui se jouent d'un point de vue économique et social. Donc on améliore ce bétail, et puis les régions vont se spécialiser, vont continuer à se spécialiser. Hein, c'est-à-dire que ce que perçoit Morisseau au XVIIIe siècle se poursuit. La Normandie, mais parce que cette région n'est pas très loin finalement de Paris, ben, va développer sa vocation laitière et fromagère. Mais autre exemple, les Charentes. Les Charentes étaient dans le vignoble, sont atteintes par phylloxéra. Le phylloxéra tue la vigne, qu'est-ce qu'on va réinventer ? Ben, on va réinventer le train blanc. Il y a un train frigorifique à partir des années 1880-90 qui part tous les jours des Charentes pour approvisionner Paris en lait et en crème. Ce lait, cette crème, c'est un élevage qui se développe avec un système d'organisation de collecte du lait. Bon, c'est toute la France, une France laitière, une France bouchère, que ce soit le Limousin, que ce soit le Charolais Nivernais, qui avait déjà cette vocation bouchère, mais qui s'affirme dorénavant. Et puis d'autres régions, comme les régions de moyenne montagne, ben en Franche-Comté, on a encore au début 19e héritière de la période dite moderne, on a encore deux races de bétail, une du bas pays, une du haut pays, une race à viande, une race à lait. Et il faut attendre une communauté mennonite qui va mettre au point un nouvel animal qu'on va appeler la Montbéliarde, qui va être reconnue.
Il y en a pas très loin.
On va aller les voir, elles sont juste derrière nous.
Cette Montbéliarde est sanctifiée par la création quasiment d'un label, ce qu'on appelle le Herbbook. On reprend le terme anglais, c'est les livres de généalogie. Alors, le premier livre de généalogie, c'est la Normande, en 1864. L'invention de la Montbéliarde, c'est 1889, parce qu'il se trouve qu'au ministère, à ce moment-là, il y a un ministre issu de la Franche-Comté qui va signer le décret de création de la race Montbéliarde. Alors, cette race, elle est intéressante. Elle est très utile aujourd'hui qu'il y a des quotas laitiers. C'est que c'est une race qui est à la fois une excellente race laitière, mais qui a de très très bonnes finalités bouchères. Donc quand la vache laitière est au rebut, on peut la basculer en boucherie.
Alors on la voit d'ici, parce que nous sommes à 3-4 mètres de ce stand de la Montbéliarde. Donc c'est une vache à la robe brune claire.
On dit pie-rouge.
Pie-rouge, hein,
c'est-à-dire
voilà.
Globalement c'est cette race des vaches de l'Est, le rameau pie-rouge de l'Est.
Et puis avec une très belle robe aussi, beige rosé,
voilà.
qui est la caractéristique de la Montbéliarde. Donc là, on est face à ces Montbéliardes. Là, on peut se dire, voilà une vache qui existe de toute éternité. On a presque la date de naissance de cette vache.
Absolument.
C'est ça.
C'est une mise au point à partir des années 1850-60, une reconnaissance officielle, dont je vous l'ai dit, en 1889. Et puis vous voyez, les animaux que nous avons sous les yeux n'ont pas de cornes. Alors ce n'est pas génétique. Hein, c'est simplement le mode de stabulation aujourd'hui fait que les animaux doivent engraisser rapidement, doivent avoir accès directement à la nourriture, ne doivent surtout pas se blesser, ne doivent pas se combattre, donc on leur cisaille les cornes très jeunes. Donc on est, voilà, ça aussi l'intervention de l'homme, c'est pas simplement de la sélection empirique au 19e siècle, génétique dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est aussi ce type d'acte qui personnellement, entre les vaches de mon enfance et celles d'aujourd'hui, j'ai du mal à supporter l'absence de cornes chez les bovins.
Surtout pour les dessins qu'on voulait en faire quand on était enfant.
Exactement.
Jean-Luc Maillot, alors, on voit bien que petit à petit, cela marche tellement bien, cette sélection, cette promotion par l'excellence, qui correspond bien d'ailleurs à l'élitisme républicain, qu'au bout d'un certain temps, on élargit le champ de compétences à tout. On crée un concours pour les vins, c'était aussi ici même au salon de l'agriculture qu'il se tient. On crée des concours pour à peu près tout, y compris les miels, tout un tas de productions agricoles.
Et si on regarde bien ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la vocation du concours général agricole et du salon de l'agriculture. D'abord, autour du concours, il y a toujours eu, entre guillemets, les marchands du temple, les forains pour la fête, les hommes politiques pour les discours, parce que c'est là que les choses sont importantes.
Et
le président de la République, ancien ministre de l'Agriculture, ne s'en prive pas chaque année. Mais on est aussi dans un système qui attire les fabricants de matériel agricole, mais on est aussi
ils sont
à Villepinte depuis 10 ans. Hein, on les sépare, les professionnels. Alors les professionnels séparés de qui ? Eh bien de 500 000, 600 000, 700 000 visiteurs qui sont essentiellement des citadins, qui viennent montrer à leurs enfants d'où vient le lait, qui viennent eux-mêmes retrouver une nostalgie de la ruralité et de la campagne. Et puis peut-être depuis quelques années, depuis la vache folle, depuis la crainte sur les OGM et autres, qui viennent chercher sans doute une sécurité alimentaire. Donc on est aujourd'hui, je crois, à un tournant. Le journal, un journal du soir, comme on dit à la radio, pour ne pas le citer, vient de titrer. Bon, Le Monde vient de titrer il y a quelques jours un article sur le dernier salon de l'agriculture. C'est peut-être un des derniers salons à l'ancienne, hein, puisqu'aujourd'hui, il semble bien quand même que l'orientation soit une légitimation de la profession d'agriculteur et d'éleveur, et soit un moyen de communication. Mais que fonction que remplit déjà le salon d'agriculture depuis sa fondation en 1964. Pisani, le premier président est quand même Georges Monnet, ce n'est pas n'importe qui.
Ministre de l'agriculture du Front populaire.
Voilà, hein. Et donc on fonde un salon international de l'agriculture qui existe encore aujourd'hui, là où nous sommes, au-delà du concours. Donc c'est la véritable vitrine de l'excellence agricole. On est toujours dans l'excellence républicaine, mais avec un public qui est certes de professionnels, mais de plus en plus de citoyens ou est de consommateurs. Et le débat, il est de savoir si les citoyens sont consommateurs ou si les consommateurs sont citoyens.
Alors, une question tout de même, c'est que cette mise en spectacle de l'agriculture, elle ne date pas des années 60, de la création de ce salon de l'agriculture international, donc il y a un peu plus de 40 ans par Edgar Pisani, mais elle date du moment du concours général agricole. Le ring, le fameux ring qui est derrière nous là-bas, qui est avec ses sièges et qui permettent de voir défiler les plus belles bêtes, ce ring-là, vous expliquez, Jean-Luc Maillot, qu'il a été inventé en 1913, c'est ça ?
Absolument, parce qu'il était important d'édifier les foules, d'édifier les agriculteurs eux-mêmes. Vous savez, enfin, vous évoquiez tout à l'heure les petites patries. La Jacques, qui arrive plus tard, 1929, qui va surtout se développer, s'est battue contre quelque chose...
La jeunesse agricole chrétienne.
Oui, pardon. Jeunesse agricole catholique, et il faut attendre 62, Vatican II, pour qu'elle devienne chrétienne et un peu plus écuménique. Mais cette Jacques s'est battue avec les jeunes paysans, avec les jeunes agriculteurs, pour leur rendre une forme d'honneur. C'est-à-dire pour lutter contre la stigmatisation des péquenauds, des bouseux, des taiseux, pour en faire des vrais professionnels, pour leur donner cette fierté. Or, cette fierté, elle est essentiellement professionnelle. Et ce professionnalisme, ben, il existe entre autres, il est montré entre autres à travers le grand ring, pendant le concours agricole où on fait défiler les animaux et leur éleveur et leur propriétaire.
C'est un peu la même chose que le titre de meilleur ouvrier de France, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de se comparer aux autres et de dire, voilà, mon travail est reconnu par les autres, c'est ça ?
Tout à fait, c'est la même fonction. On parle de concours général agricole. Vous savez bien que dans le milieu de l'éducation, de l'enseignement, il y a aussi le concours général tout court.
Merci Jean-Luc Maillot de cette conclusion qui permet de voir qu'effectivement, quand on vient au salon de l'agriculture à Paris, on est sur la pointe d'un iceberg et qu'il y a évidemment derrière toutes ces productions, derrière ces concours généraux que nous avons évoqués avec vous, il y a toute la production et le maintien sur place des activités rurales en France. Merci encore.
Merci à vous.
C'était la nouvelle fabrique de l'histoire, Histoire rurale, l'élevage et les concours agricoles par Emmanuel Laurentin. Réalisation Nathalie Trianda-Filides. Première diffusion sur France Culture le 9 mars 2005. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.